Alors, contrairement à Joseph Canel, Céline Arnaud est connue. Connue, connue. Alors, je vais vous parler de textes de Garnaud peu connus, ou même inconnus. Tout mon propos, c'est de vous montrer des textes qui sont inconnus et de voir ce qu'on peut en dire, de voir ce que vous pouvez en dire. De mon côté, j'ai quelques idées, mais j'attends surtout de la discussion pour que ça se matérialise. Garnaud, ça fait un petit bout de temps que je travaille sur lui, et sur l'épistolaire aussi, je rappelle, et ça ne nous rajeunit pas, qu'il y a quelques années déjà, on a participé, des gens autour de la table ici, était là, un groupe de recherche sur l'épistolaire qui s'appelait le Centre universitaire de lecture sociopoétique de l'épistolaire et des correspondances, communément appelé CUSEC, avec Benoît Melançon, Jane Everett et Pierre Popovic. Et j'avais alors un peu travaillé sur les lettres de Garnaud. J'avais proposé que cette idée que l'épistolaire, dans le contexte des années 30 au Québec, avait joué un rôle déterminant pour plusieurs écrivains, étant donné qu'il n'y avait à peu près pas de revues littéraires, de salons littéraires, d'éditeurs littéraires. Et j'avais parlé de configuration épistolaire en empruntant la notion de configuration au sociologue Norbert Elias et en l'opposant à la notion de champ. J'étais pas le seul à travailler sur Garnaud épistolier. Pierre a fait une analyse lumineuse d'une fausse lettre de Garnaud, qu'il a lui-même écrite, qu'il a trafiquée en fait à Claude-Henri Grignon, alors que c'était une lettre adressée à sa maman. Et il en avait déduit l'idée d'une institution imaginaire. Geneviève ici a fait une mémoire remarquable en étudiant la correspondance de Garnaud sous l'angle du don, au sens dont on a parlé tout à l'heure, de Marcel Mauss et Jacques Thégodebout également. Et je pensais que j'avais fini de parler de Garnaud épistolier, mais le hasard de la recherche ou le déterminisme des subventions, comme vous voulez, a fait que je me suis replongé parce qu'en préparant la biographie de Garnaud, je suis tombé sur. En fait, c'est pas ça, c'est pas que je suis tombé sur, c'est que j'ai été amené à relire toute la correspondance de Garnaud et j'étais frappé. Peut-être qu'il ne faut pas le dire, mais par la beauté des lettres, tout simplement, par leur originalité, leur intensité, leur liberté de ton, de style. Et ce plaisir de lecture n'a fait que s'accentuer quand je suis tombé sur des lettres inédites de Garnaud. Me voici donc en train de préparer, je ne pensais jamais faire ça de ma vie, mais une édition critique de 432 lettres de Garnaud, dont plus du quart sont totalement ou partiellement inédites. Ces lettres font voir un Garnaud assez différent de celui qu'on connaît, et ça m'a amené à réfléchir à nouveau à une question que le CUSEC posait à l'époque, à savoir est-ce que l'écrivain épistolier est plus libre de dire ce qu'il veut quand il écrit à quelques-uns, à quelqu'un en privé? Est-ce que ça permet d'échapper à l'orthodoxie, à ce qui est attendu, entendu, lorsqu'on écrit donc en dehors de l'espace public? Il y a une autre façon de poser la même question, c'est est-ce que Marc Angenoux n'aura pas tourné les coins ronds? Est-ce qu'il n'aura pas été un peu paresseux en excluant de cette toute petite enquête sur le discours social de 89 l'immense corpus de ce qui s'écrit mais ce qui ne se publie pas, c'est-à-dire journaux intimes, mais surtout les correspondances, les lettres? Et dans le Québec soi-disant monochrome et archi-censuré de 1930, Québec paralysé de peur à l'idée qu'un prêtre ou un proche nous prenne en défaut moral, est-ce que la lettre familière, la lettre privée ne fournissait pas un espace de liberté incroyable, un terrain de jeu idéal pour que l'écrivain, le journaliste, le scientifique, peu importe, puisse enfin lâcher son fou? Cette hypothèse d'une sorte de duplicité propre à l'épistolier était séduisante, mais comme beaucoup d'hypothèses séduisantes, elle n'a pas tenu la route beaucoup. Il était naïf de penser que l'épistolier échappe à la doxa simplement parce qu'il se sait à l'abri du regard public, bien sûr. Le social est dans le langage même, dans les mots qui s'offrent ou non à l'épistolier, si caché, si libre soit-il. Dans 1889, toujours notre travailleur actif, que j'ai décrit comme paresseux, mais évidemment c'était une gentillesse, hein. Il a fourni tous les éléments de ma réflexion pour poser cette hypothèse, à savoir que, au fond, la lettre obéit au même moule que le reste du discours. Marc ne voit pas vraiment de raison de penser que la conversation, par exemple, le vaste domaine de l'oral, serait configuré autrement que le discours imprimé. Il fait l'hypothèse que le discours social, fixé dans l'imprimé, je le cite, devient le moule du discours oral des classes alphabétisées. C'est ce que suggèrent aussi beaucoup de sociologues, mais je ne m'étends pas sur cette question. Cela dit, au début de 1889, Marc insiste pour dire que l'imprimé produit une homogénéisation de la parole, dont les accents, les mélodies, les accidents d'énonciation sont gommés. Il dresse la liste de ce que l'écrit l'imprimé censure. Les accents régionaux, populaires, vocabulaire familier, vulgaire, les lieux communs pauvres, les phrases de remplissage, les hyperboles du pathos, la conversation entre hommes, celle qui roule sur les allusions grivoises, la sexualité. C'est un peu tout cela que donne à lire les lettres inédites de Garneau, et qui permettent de restituer cette hétérogénéité de la parole. Même si, au bout du compte, et Marc est très prudent, il dit que c'est une hypothèse qui échappe à la démonstration directe, on ne peut pas démontrer si une lettre est orthodoxe ou non orthodoxe. C'est une sorte d'hypothèse indémontrable, à mon avis. Il n'y a pas de modèle de lettre, sauf quelques manuels poussiéreux. Pas de point de comparaison, pas de canon, de tradition. D'ailleurs, c'est pourquoi on hésite à parler d'un genre épistolaire, comme on parle du genre romanesque ou du genre poétique. On peut bien sûr dire, de Regards et Jeux dans l'espace, le seul recueil de Céline Garneau, qu'il s'agit de poésie non traditionnelle. On peut comparer ce recueil à un canon et dire que c'est audacieux dans le Québec de l'époque d'écrire en vers libre, par exemple, parce que c'est tout à fait rare de le faire. Mais pourquoi on ne peut pas faire de même avec les lettres, et on peut penser que le discours intime peut être aussi bien un espace de liberté qu'un espace de contrainte, un espace conformiste. Écrire entre amis, Facebook le montre bien aujourd'hui, ce n'est pas un gage de liberté, loin s'en faut. Deux exemples d'orthodoxie ou d'hétérodoxie épistolaire, tous deux empruntés à l'époque, années 30 au Québec. Premier exemple, la correspondance entre Alfred Desrochers et Louis Dantin. Deux des écrivains les plus libéraux, les plus modernes de l'entre-deux-guerres. Louis Dantin est un esprit vraiment anticonformiste. Il a été obligé de défroquer et de s'exiler près de Boston pour vivre ses nombreuses passions amoureuses. Et le 25 décembre 1929, il demande à son ami, protégé aussi, il est beaucoup plus jeune, Alfred Desrochers, il lui demande s'il a déjà lu les Confessions de Rousseau, parce qu'il aimerait lui offrir ce livre comme cadeau de Noël. Desrochers lui répond non, il n'a pas lu Rousseau, mais il ne le lira pas. Il ne le lira pas parce que si on est un vrai catholique, on ne le lit pas. Il répond le 26 décembre, « Mes principes, qui me valent les railleries de mes confrères assez souvent, sont que tant que je serai catholique, je ne lirai pas des livres nommément à l'index, sans dispense. J'en lis qui sont peut-être plus nocifs, si tant est qu'un livre le soit, mais ils ne sont pas nommément condamnés. » Louis Dantin est furieux. Il dresse la liste de tout ce que Desrochers s'interdit de lire, mais bon, on connaît, de Montesquieu, Voltaire, etc. etc. Et ça continue, et il trouve ça un peu risible. Mais finalement, Desrochers répond quelques jours plus tard qu'il s'est trompé et que Rousseau, finalement, non, il n'est pas à l'index. Et il dit « Je puis donc en toute paix de conscience accepter votre cadeau. » Alors, cet exemple donne la mesure d'un vrai conformisme, de la non-liberté, l'autocensure, mettez ça comme vous voulez, qui règne au Canada français vers 1930, dans le discours, j'insiste, qui est en principe le plus moderniste de l'époque. Deuxième exemple, à l'autre bout du spectre, une correspondance franchement inattendue, les lettres biologiques écrites par le frère Marie-Victorin à Marcel Gauvreau entre 1933 et 1944. Je ne pensais pas, à vrai dire, qu'on pouvait écrire de telles choses au temps de Marie-Victorin. Cette correspondance clandestine, si vous l'avez lue, publiée l'an dernier chez Boréal, est la preuve qu'il y a tout de même un mur qui sépare ce qui s'écrit en privé et ce qui s'écrit en public. On y découvre des descriptions explicites de l'appareil génital féminin en pleine action, action observée très méticuleusement et de très très près par le frère Marie-Victorin à Cuba, où la prostitution était légale. Ce sont des lettres prétendument scientifiques, biologiques, mais ces lettres, disons, sortent clairement du moule dont parle Marc Angenot. Et le frère Marie-Victorin savait pertinemment qu'il sortait du moule, qu'il risquait sa réputation et celle de sa destinataire, à qui il répétait de faire bien attention et de garder secrète cette correspondance. Voilà donc deux cas extrêmes, tous deux étonnants. D'un côté, un poète moderne qui, même au nom de l'art, obéit à la surconscience religieuse, et de l'autre côté, un religieux qui, au nom de la science, dit des choses qui auraient scandalisé à peu près tout le monde au Québec à l'époque. J'ajoute que Desrochers fait de la lettre un moyen d'entretenir une sorte de mentorat avec Dantin. Il y a eu une thèse de doctorat récemment sur le sujet. Le frère Marie-Victorin fait aussi de ces lettres un moyen de développer ses intuitions scientifiques. Donc les deux épistoliers font de la lettre un moyen, un instrument, tandis que pour Garneau, ça va être une toute autre histoire. Le poète de Regards et Jeux dans l'espace fait de la lettre un espace privilégié, un lieu pour écrire. Il aime écrire des lettres, non pas seulement pour nourrir les relations d'amitié, mais parce que la lettre fournit un lieu idéal pour prolonger son journal, qui resterait autrement une lettre morte, pour ainsi dire. Dans une lettre à André Laurendeau du 8 juillet 1932, il défend la supériorité de la correspondance sur le journal dans les termes suivants. Autre et lyrique et paraboleuse amie. N'étant pas romantique, je ne me leurre pas comme toi avec l'inutilité de la correspondance. N'y cherchant pas à être penseur d'occasion, mais l'occasion de penser, je n'y affecte aucune pudeur de moi-même, mais la construis un peu comme un journal, ce qui, encore une fois, ne prouve pas son inutilité. Car le journal a bien des chances d'être une chose morte, tandis que dans la correspondance, chacun donnant son tour de roue, la machine renaît et garde son mouvement. Ainsi, nous pouvons comparer les impressions, c'est-à-dire voir de plusieurs côtés la même chose. La plupart des lettres de Garnon sont connues. Elles ont été publiées il y a un certain temps déjà, dans la première édition que voici, celle de 1967 chez HMH, chez les amis de Garnon. Pour rappel, ce sont les premières lettres au Québec à avoir été recueillies sous forme de livres, dans une perspective littéraire. Elles ont paru dans la prestigieuse collection Constante, donc dans une collection qui se voulait d'abord et avant tout une collection d'essais. Ce sont des lettres d'écrivains, de poètes, à placer au même rang que les grands essais littéraires publiés dans la même collection, comme Convergence de Jean Lemoine, destinataire principal de Garnon, ou La ligne du risque de Pierre Vadeboncœur. Lettre à ses amis, tel est le titre choisi par l'éditeur destinataire, est donc une œuvre littéraire de plein droit. Et la critique va immédiatement adhérer à ce pacte, elle va recevoir les lettres comme non pas un document, ce qu'avait été pour plusieurs le journal de Garnon en 1954. Mais comme un événement littéraire. Le jeune André Major lui consacre deux articles dans Le Devoir, pendant que Monique Bosco intitule son compte-rendu « Des lettres qui sont un vrai roman ». Mais la réaction la plus parlante, c'est celle de Jacques Ferron, qui répond à Garnot par un roman, pour ainsi dire, « Le ciel du Québec » publié en 69, s'est directement inspiré de la lecture de lettres à ses amis. Ces lettres de Garnot, publiées en 67, n'ont pourtant rien d'extraordinaire. Elle donne à lire ce qu'un jeune poète montréalais catholique se permet d'écrire dans les années 1930 lorsqu'il s'adresse à des amis, tous de jeunes montréalais catholiques comme lui. Les lettres de Garnot, comme les poèmes qu'il écrit, comme le journal qu'il tient, comme les quelques textes qu'il publie, appartiennent à ce qu'on peut appeler le discours catholique, sans aucun doute. Elles ne contiennent rien de scandaleux à première vue et elles ne scandalisent à l'époque personne. Les idées de Garnot sont infiniment moins progressistes que celles du socialiste Louis Dantin, par exemple, et l'épistolier ne cherche pas à provoquer son lecteur comme l'a fait Ferron dans sa correspondance privée et publique. L'horizon de sens des lettres de Garnot n'a rien d'original, c'est donc le discours catholique dont se réclame à peu près tout le milieu intellectuel canadien-français de son époque. Ce discours catholique n'est pas spécifique au Québec, il rejoint ce que Marc appelle le contre-discours catholique de 89. Contre-discours parce que le système discursif est complet, autonome. Il y a des structures de diffusion des églises, écoles, presse d'actualité, presse plus intellectuelle, émissions de radio, etc., etc. Et au Québec, ces structures, on le sait, sont tentaculaires depuis la fin du 19e siècle et même hégémoniques durant les années 1930. Ce discours catholique est si puissant et si autosuffisant qu'il constitue un contre-discours global. Il permet d'exister en dehors du monde ordinaire, à l'écart des axiologies qui ne relèveraient pas de sa logique propre, au-dessus de ces axiologies qu'il assujettit à sa propre vision, dont les bases sont incontestables et qui se ramifient en divers sous-groupes. La configuration épistolaire que forment Garnot et ses amis constitue un de ces sous-groupes. Ce sous-groupe s'oppose, sans trop le dire, aux catholiques antimodernistes, aux ultramontains, aux dogmatiques. Nul anticléricalisme ici, mais une indépendance d'esprit par rapport à l'Église canadienne-française traditionnelle qui vient moins d'un goût pour la dissidence que de la conviction d'appartenir à une classe supérieure, une classe plus éduquée et plus éveillée intellectuellement que les représentants cléricaux déjà en place. Donc on est loin du José des anciens Canadiens. Il dispose d'une revue pleine d'ambition, La Relève, revue fondée en 1934, je ne reviens pas sur tous ces éléments de contexte, est très directement inspirée de la revue Esprit de Mounier et du néo-thomisme de Maritain. Cet horizon de sens catholique, ou ce moule discursif, se voit partout dans les textes de Garnot et de ses amis, peu importe qu'ils soient publics ou privés. L'histoire aurait été toute différente si les amis de Garnot avaient publié toutes les lettres de Garnot, in extenso, non pas seulement une partie de celle-ci. Soit dit en passant, ça aurait été aussi différent si on avait publié tout le journal de Garnot, mais là, c'est sa mère qui avait arraché les pages du journal, donc on n'a jamais pu voir ce qu'il y avait. Je rappelle brièvement l'histoire de la publication des lettres de Garneau. Les amis Jean Lemoine, Claude Urtubis, Robert Illy vont se charger de réunir, de publier les lettres de Garneau après avoir publié les poèmes, puis les extraits du journal. Il a fallu quand même 24 ans avant que le projet aboutisse, après la mort de Garneau en 1943. Au départ, les amis ne sont pas convaincus que c'était une bonne idée, surtout qu'Anne Hébert n'était pas d'accord, et ça, c'était compliqué. On trouvait que c'était risqué de publier des lettres que Garneau lui-même n'aurait peut-être pas voulu publier. Jean Lemoine consulte alors Jeanne Lapointe, professeure à l'Université Laval, professeure de lettres, et celle-ci va encourager les amis à publier les lettres, mais pas toutes les lettres, et pas dans une édition intégrale. Elle suggère de faire un choix. Et ils vont donc faire un choix, ce qui est assez normal dans l'édition de correspondance privée, rien de surprenant ici, mais ils y vont fort. Ils vont enlever beaucoup de choses et ça va contribuer à homogénéiser le discours épistolaire de Garneau en retirant tout ce qui semblait trop oral, trop cru, trop embarrassant, trop bizarre. Résultat, l'image de Garneau a surtout été celle-ci, donc poète, une image qui a beaucoup circulé, un poète grave, sérieux, réfléchi, tourné vers l'intérieur. Or, Garneau, dans cette même maison où il s'est fait photographier, avec la même mise en scène, il y a toute une série de clichés qui sont pris et qui montrent un Garneau tout à fait différent de celui qu'on connaît. Il aime jouer avec son image, avec les mots, et il a fait du théâtre, je le signale, durant une bonne partie de sa courte vie. Il sait c'est quoi se mettre en scène. On le voit ici, un peu plus ouvert, un peu plus moqueur, de plus en plus poseur, et là, carrément bizarre. Donc, il aime se donner en spectacle, faire le pitre, jusqu'à cette photo, là, je suis désolé, là, une photo de lui en pleine nature à Sainte-Catherine, où il se prend pour un discobole. Si je montre ça, c'est pour casser l'image d'un Garneau prude, d'un Garneau tout intérieur. Il veut s'exhiber. Il adore ce genre de jeu. Il y a plein de photos comme celle-ci. Je ne vais pas toutes vous les montrer. On ne va pas faire dans le sensationnalisme. Mais enfin, vous voyez qu'il il n'est pas que ce poète renfermé qu'on a peint. Or, l'épistolaire est sa scène préférée. C'est là qu'il se sent le plus à l'aise pour écrire en prose libre, comme je l'ai proposé. Garneau épistolier écrit des lettres qui lui ressemblent, tantôt graves, tantôt délirantes, vraiment, vous allez voir. Ce n'est pas un épistolier particulièrement prolifique, si on compare ses 432 lettres aux 23 000 lettres de Voltaire, mais durant les quelques années où il est productif, c'est un épistolier intense. Je ne connais pas d'autres écrivains au Québec qui se soient autant investis en tant qu'épistolier, sauf peut-être Ferron, mais alors dans un tout autre registre. L'épistolaire est pour Garneau un espace semi-privé, semi-public, comme vous voudrez. Le titre du recueil, « Lettres à ses amis », peut d'ailleurs s'entendre de deux façons. Garneau écrit des lettres qui sont toutes destinées à un ami, mais on peut aussi entendre que les amis forment un seul et même destinataire, comme si Garneau écrivait à tous en même temps, d'où l'impression qu'il écrit à quelques-uns, non pas seulement à quelqu'un. Il a fait de la lettre un laboratoire d'écriture, mais aussi un espace où il se fiche bien souvent de son correspondant, où il exploite pleinement ce que Vincent Kaufmann appelle l'équivoque épistolaire, c'est-à-dire qu'il ne convoque son correspondant que pour mieux le révoquer, creusant la distance par quoi l'écriture peut advenir. Il le reproche sans cesse de ne pas lui écrire assez, mais on dirait souvent qu'il soliloque et qu'il écrit des lettres comme s'il s'écrivait à lui-même ou à quelques lecteurs absents, à nous-mêmes, lecteurs d'aujourd'hui peut-être. Il peut paraître surprenant ou paradoxal de dire que Garneau fait de la lettre une scène qui se donne en spectacle quand on sait à quel point il cultive la solitude, il vit en ermite. Mais la lettre n'en est pas moins pour lui une manière de tribune. Elle lui permet de montrer son inhumanité, pour reprendre un autre mot de Kaufmann, donc d'exhiber la distance qui le caractérise. Il lui arrive souvent de demander à son correspondant de faire circuler une lettre, de la conserver pour qu'il puisse l'intégrer à son journal. Il écrit parfois des lettres fleuves de 10, 20, voire plus de 30 feuillets. Ces lettres ressemblent alors à de petits essais. Durant une décennie, la lettre a été pour lui le lieu par excellence pour donner à l'écriture une existence sociale. Cette passion de l'épistolaire est d'autant plus parlante que Garneau ne cesse de trouver des prétextes pour ne pas publier d'autres textes. Ses amis le suppliaient de faire paraître ses poèmes ou ses proses dans la relève. Il ne refusait pas toujours, mais c'était toujours compliqué. En revanche, il ne se faisait pas prier pour écrire des lettres, c'est lui-même qui priait, qui suppliait ses amis de lui écrire. J'ajoute que s'il adore écrire des lettres, il n'aime pas écrire à n'importe qui. Il a un nombre très limité de correspondants. Il n'était pas porté à vouloir élargir son cercle. Au contraire, sur Facebook, il aurait eu une demi-douzaine d'amis. Je signale que 4 ans après l'apparition de Lettres à ses amis, chez HMH, Jacques Brault et Benoît Lacroix vont publier une édition critique de toute l'œuvre de Garneau. Ils vont inclure la correspondance dans l'ouvrage qui s'intitule « Œuvre au pluriel ». Et là, on va trouver les poèmes, les textes en prose, le journal et une partie des lettres. Une partie parce que les amis de Garneau ont refusé de céder leurs lettres à Brault Lacroix, n'étant pas d'accord avec les visées universitaires des deux responsables qui voulaient publier les lettres in extenso. Les amis de Garneau, comme je l'ai dit, ont fait du ménage, ils ont expurgé les lettres de tout ce qui pouvait choquer les lecteurs, blesser des personnes encore vivantes. Alors, sans entrer dans tout le détail de ce qui a été coupé, censuré, disons que tout ce qui avait rapport à la vie privée, à la vie intime, en particulier au corps, corps malade, corps sexué, a été supprimé. Parfois, au prix de quelques lapsus, dont mon préféré, les amis de Garneau ont lu le mot « cheville », là où il était pourtant clairement écrit le mot « schnoll ». Parmi les lettres entières qui ont été supprimées, on trouve une douzaine de lettres d'amour envoyées à Gertrude Hodge à l'automne 1933. Gertrude Hodge était une des rares femmes à faire partie du groupe de La Relève. Elle sera l'épouse de Jean Lemoine et publiera un recueil à l'Hexagone plus tard. Et pendant un automne, Garneau a été intensément amoureux d'elle, l'inverse étant pas vrai. Mais il y a cru. Et quand Garneau croit quelque chose, c'est sérieux. Et donc, il va lui adresser plusieurs lettres, et à un certain moment, les lettres vont changer de ton et devenir très sombres. Et celle-ci montre en quelque sorte la transformation. C'est une lettre troublante qui est écrite après un incident mystérieux, un drame terrible, mais impossible à reconstituer, ce qui donne une lettre qu'on pourrait intituler « Je fuis, donc j'écris ». Alors, je vais lire transcrite, c'est plus facile. Je ne sais pas si j'ai... Parce que là, demain, lire, c'est long, mais elles sont bonnes. Enfin, je commence, puis vous m'arrêterez, parce qu'il y en a quelques autres de différents registres, vous allez voir. Alors, je vais t'écrire de 1000 choses, inconsciemment, comme un vagabond dédaigneux de savoir où il va. Je n'aurai même pas la gravité qu'il me faudrait pour te parler aujourd'hui des choses qui se sont passées, dont le seul souvenir, si je comprenais, devrait me faire frémir. Mais je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre. Je fuis. Tout cela est obscur et je n'y vois rien. Ce serait à moi qui ai tout défait, tout cassé, à tout arranger. Mais aujourd'hui encore, je n'arrangerai rien, je ne veux rien voir, je suis désemparé, je ne vois rien à quoi m'accrocher. Je vis dans ma chambre, je ne veux pas sortir de ma chambre, ni que personne vienne m'y déranger. Dans ma chambre, j'ai réussi une chose étrange. J'ai fait la nuit en plein... J'ai fait la nuit en plein jour, oui, la nuit totale, où ma seule lampe fait lumière. J'ai mis devant la fenêtre d'épaisse couverte, ma porte est fermée, et j'ai une petite lampe basse avec une ampoule jaune qui fait sur ma table des couleurs malades. Ma lampe est très basse sur ma table, de sorte qu'une grande part de la pièce est dans l'obscurité complète. Je vois à peine le plafond qui est très loin et je pourrais être dans un puits sans issue. J'ai fait la nuit. Ailleurs, dans la maison, on marche, on parle. Je me demande qu'est-ce qu'on a à s'agiter encore à pareille heure. C'est la nuit. Je souffre beaucoup d'insomnie. Il y a quelque chose qui me tracasse, qui me force à m'agiter. Quand je m'étends, je ne puis dormir. Mes yeux, au lieu de se fermer, s'agrandissent encore, encore démesurément. Et quelque chose de noir m'entoure et me pénètre. Et ma pensée glisse dans un tunnel qui se rétrécit et m'écrase dans l'épouvante. Je n'en puis plus. Je me lève, j'allume ma lampe jaune qui est comme sinistre. La chambre est pleine de fumée. Si j'en sortais, je ne pourrais plus respirer en y rentrant. J'étoufferais. Je lis un roman policier. Je ne comprends pas beaucoup. Il fait frais. Je ne suis pas encore habillé. Pourquoi le serais-je? C'est la nuit. J'enfile un chandail très épais par-dessus ma robe de chambre. J'ai des coussins sous les pieds parce que le plancher est froid. J'allume une autre cigarette. Je lis un roman policier. Au bas des pages, entre les paragraphes, dans tous les espaces blancs, une angoisse me guette, ou plutôt non, plutôt l'attente, la menace d'une angoisse, et j'enfile vite à la suite. Quel ressort cassé en moi, comme dans un jouet qu'on agite, quelque chose de défait ballotte en dedans. Mais non, n'y pensons pas. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que faisait le commissaire? Décidément, demain, j'irai au cinéma. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce arrivé? Je ne vois rien, la tête désemparée. Est-ce que je suis fou? Tout cela est en dehors de moi, incontrôlable. C'est comme si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre. Je regarde curieusement sans pouvoir comprendre. Mais soudain, une douleur aiguë m'avertit que j'existe et que j'ai fait quelque chose d'effroyable. Il fait maintenant nuit tout à fait pour vrai. Dans quelques minutes, je partirai pour mon cours chez Holgate, un peintre. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'est vrai, il faut laisser faire le temps. Et puis après, quand cette horreur sera un peu amortie, cela te fera du bien de me pardonner. Moi, j'attends cela pour vivre. J'ai un grand remords et une peine profonde de ce que je t'ai fait souffrir. Je ne le comprends pas encore, ni ce que j'ai fait, ni ce que cela te faisait. Un criminel doit être ainsi, ahuri de ce qu'il a fait comme devant un acte isolé, incompréhensible, inexplicable. Il doit fuir comme je fuis, devant le souvenir d'une chose qui le dépasse et que pourtant il a fait, lui-même. Je suis un criminel de mon genre, je me fais horreur. Pardonne-moi, plus tard je comprendrai mieux, je pourrai mieux voir le mécanisme, mais maintenant je ne puis pas m'excuser, t'expliquer. Je fuis à l'idée de ce seul souvenir de cette folie. Tout ce que je puis te dire, c'est que j'ai un immense regret de tout cela, que cela et moi-même me fait horreur. Pardonne-moi, mon amour, même sans comprendre, même sans que je le mérite, rien que pour être bonne, je voudrais faire tout au monde pour que tu me pardonnes et que tu oublies moi. Voilà, fin de la lettre. Je signale qu'à la lettre suivante, il va continuer dans le même registre. Il va terminer cette autre lettre en disant « Pardonne-moi, ah, pourquoi n'es-tu pas ici pour m'aider à pleurer? J'étouffe. Pourquoi c'est impossible que tu me tues? Je voudrais tant la mort et que ce soit toi qui me la donne. Je t'adore, j'étouffe, ton tien. Dans les lettres manuscrites, Jeanne Lapointe va inscrire à l'endos de ses lettres, lettres de folie, très inquiétantes pour le lecteur, un mystère, Saint-Denis terriblement atteint à cette époque. Et elle suggère fortement à Jean Lemoyne de ne pas publier cette lettre et même de ne pas publier du tout cette correspondance amoureuse, pleine de pathos juvénile, disait-elle, de narcissisme et de folie. Folie qui n'est pas celle d'Artaud écrivant à Jacques Rivière, mais qui a de quoi inquiéter n'importe qui. Folie qui a tout de même un intérêt littéraire, selon moi, ne serait-ce que par tous les échos qu'on entend avec des poèmes, poèmes de regards et jeux dans l'espace, la dissociation du moi dans le poème accompagnement, l'idée de faire la nuit qui rappelle le poème Faction, on a décidé de faire la nuit pour une petite étoile problématique, l'image du vagabond, du mauvais pauvre. Bref, il y a beaucoup de liens à faire avec ces autres textes, l'obsession du regard. Ici, je n'y vois rien, je ne veux rien voir. L'association entre la fuite et l'écriture, je ne veux pas comprendre, je fuis, et qui fait penser à un passage d'une autre lettre où Garneau écrit qu'il n'est qu'une longue digression. Il se présente comme une digression, comme s'il se voyait être littéralement hors sujet, hors de son sujet, hors de lui-même. D'où peut-être cet espoir sacrificiel dans la lettre suivante, « Je voudrais tant la mort et que ce soit toi qui me la donne. » Il y a aussi la honte terrible dont parle Garneau, qui n'est pas sans faire penser à celle qu'il éprouvera en 1937, au moment de publier « Regards et jeux », et qui le conduira à s'expliquer de façon souvent dramatique, en parlant de l'écriture comme d'une faute, d'un mensonge, d'une profanation, comme dans une lettre inédite à son cousin Maurice Hébert, le père d'Anne Hébert, lettre qu'il écrit en décembre 1938, donc plus d'un an après la publication de « Regards et jeux ». Que je trouve, c'est la dernière lettre que j'ai trouvée, c'est le dernier texte inédit que j'ai lu de Garneau, que je trouve très touchante. Là encore, elle est longue, mais je vous en lis quelques extraits simplement. Je te remercie de ta lettre et je vais m'expliquer. Si tu veux, j'ai du talent, mais ça me coûte cher. Cette malheureuse facilité est pour moi une incessante sollicitation à me rechercher moi-même. Et tu sais que qui recherche sa vie la perdra. Car sur ce chemin de la recherche de soi-même, on est bientôt à la merci de la complaisance. Et alors, à moins de posséder une identité très forte, très définie, sait-on jusqu'à quel point on restera honnête, jusqu'à quel point notre fronde risque d'être surfaite, car l'orgueil entre facilement dans le jeu, mais alors rien n'est vu justement. J'ai été si profondément menacé, pris dans cette toile d'araignée que j'ai tout renié d'abord. J'ai vu que tout cela ne m'apportait rien qu'une mort certaine. Ce n'est pas une métaphore, j'ai éprouvé cela le plus réellement qu'il se peut. J'ai été rongé, détruit jusqu'au désespoir. Par quoi? Par la complaisance et implicitement le mensonge, devant Dieu, devant les hommes. Je me sentais coupable de profanation. Comment cela? J'étais sans cesse à l'affût de la réalité, de ce qui put m'apparaître de la réalité. Pour en faire valoir l'écho en moi, j'étais à l'affût de tout ce qui put profiter à mon envie de poésie. Profaner, c'est prendre ce à quoi un grand, véritable, profond amour ne nous donne pas droit. L'amour seul donne droit, parce que seul il rend justice. Chacun n'a pas droit à tout indistinctement. Le poète est celui que Dieu a établi roi de la création sous un certain rapport, lui permettant d'en jouer, mais seulement dans la mesure où il lui a légué personnellement comme sien propre cet héritage. Qui joue de ce qui ne lui appartient pas de droit naturel est profanateur. Son jeu est jusqu'à un certain point entaché de mensonges qui force son registre fausse, au sens transitif aussi bien qu'à l'intransitif. Et ce passage, un autre extrait de la même lettre, « Si je deviens assez libre pour chanter d'une façon tout ouverte et abandonner des amours passagères, sans vouloir retenir ces amours, sans les vouloir plus profondes qu'elles ne sont, je pourrais écrire des vers de temps à autre, quitte à ne pas les publier s'ils n'ont pas de valeur profonde, de charme spécial. » Ce qui est la seule fois où Garneau laisse entendre qu'il pourrait recommencer à publier. Et il ajoute ceci que je trouve très parlant. « Il me faudra être assez libre pour ne plus tenir à être poète, pour pouvoir accueillir la poésie quand elle vient sans avoir envie de la retenir, et ne pas m'attacher à la forme que je lui donne, ce que j'appellerais aimer chastement la beauté, ne pas jouer avec elle inconsidérément, ne pas profiter d'elle, ne pas l'acheter à vil prix dans ses plus faciles espèces. » Il me faudra être assez libre pour ne plus tenir à être poète. La formule rappelle l'injonction de Maritain dans Art et scolastique, qui disait que le vrai poète était inconscient de son art. À ceci près que Garneau associe cette inconscience non pas seulement à une forme d'humilité, mais ce qui est plus surprenant, à une forme de liberté, comme s'il plaçait cette valeur, qui est célébrée aussi dans Regards et Jeux, où les questions du paradis des libertés, le poème Nous ne sommes pas des comptables, dans les versions manuscrites, avait comme titre Liberté. C'est un mot qui revient assez souvent. Donc cette liberté, elle est au croisement ou elle est au-dessus de valeurs plus chrétiennes comme l'humilité, la pauvreté, la chasteté. Et cette liberté qu'il associe à un éventuel retour à la poésie, on entend rétroactivement aussi qu'elle n'est peut-être pas étrangère à sa décision de ne plus publier. Écrire en prose libre, c'est en quelque sorte se permettre d'entrer en littérature pour mieux en sortir, pour ensuite y retourner si la nécessité se fait sentir. La lettre est un espace idéal pour jouer ainsi sur les frontières du littéraire et du non-littéraire pour écrire en prose libre. Cela se traduit par des lettres parfois extravagantes, des lettres irrecevables dans certains cas, du moins aux yeux des éditeurs de Garneau. Ils les ont reçues une première fois, ils les ont conservées même, enfouies dans les archives, comme si elles étaient honteuses ou embarrassantes. Et il est vrai que Garneau, quand il se met à délirer, peut aller loin dans la niaiserie. Voici par exemple une lettre de janvier 1939. Donc, quelques semaines après celle assez grave qu'il a écrite à Maurice Hébert, là, il est carrément sous. Et il fait de son ivresse le moteur même de sa lettre, dont le titre pourrait être « Je bois, donc j'écris ». Alors, difficile à lire, difficile d'ailleurs de l'éditer. Mais là, vous avez un extrait, je ne sais pas si on voit quelque chose, c'est tout petit, mais... Alors, mon cher Claude, pauvre malheureux, père, remettez-moi de venir dans la partition de votre déchéance, inscrire cette note bienvenue, qui a l'espérance du salut, la prescription du remède violent mais salutaire, d'ailleurs agréable au goût, qu'un nombre incalculable de médecins non moins célèbres recommande aux affectés d'affection primaire, incondicionibus, dont on ne parle pas, incestibus, étant pour le moins qualificatif. Ce remède à tout mot, y compris les mots, et à toute épreuve dans tous les sens, y compris celui des sens, excusez-moi, je n'y suis pas, comme fait dire la dame fort occupée à quelque action insolite ou en son lit, te, fermer toute parenthèse, effacer toute parenté, parenté cédant, ne cédez pas, cédez pas tant, céder, risoire, risoire, tel qui rit le soir, le matin pleurera, etc. Et là, un paquet de parenthèses. Et là, je pourrais continuer comme ça des mille et des mille, mais j'ai pas mis les autres, j'aurais peut-être dû, mais il continue comme ceci. Il a fallu en ajouter. C'est bien pour dire, comme la langue française n'est pas élaborée. Élaborée, je parle au grand vent qu'il s'est mis à faire. Qui, boré, et qui déménage les nuages avec leur pluie et toutes ces saloperies et montre la lune dans le ciel pâle, et on espère que demain il va faire une beauté prodigieuse. On a tout lieu de le penser. P-E-N. Enfin, pour revenir à notre propos, on a tout lieu de le penser, parenthèse, on a tout lieu de le penser, P-A-N, dit celui qui ne pensa rien, Sancho pensa, qui pensa-t-il, je pense, donc je guéris, dit le médecin malgré tout inquiétante, tentante est-elle à ce point-là, tante avec oncle, fille cousine, parce que Claude d'Urtubise va épouser sa cousine, inceste, d'où l'allusion à l'inceste au début. Tante avec oncle, fille cousine, coup, sine qua, ne tient la tête. T'es toute à ta tentation, t'es si tentation que ça. Entente est-ce bien ou mésentente? Quant à moi, ce malentendu, ne pas lire ce mal entendu n'est dû qu'à tant de parenthèses. Pour toi, qu'à tant de parenté. N'y est-il tant de urtubise? Serais-tu en amourachi d'une cousine bise-bise? Je n'ai pas le courage de fermer toutes ces parenthèses, le fasse qui voudra. Je joins à cette lettre un bout de papier à cet effet. Là, il y avait une faute et entre crochets, l'ivrognerie dérange mon orthographe. Si seulement cela, mais bien autre chose, il faut que j'y renonce, d'autant plus que j'achève la dernière d'une douzaine de bières, sans grand espoir de revenir à notre dessein. Nous allions dire, si tant est que nous avons bonne mémoire, que l'absence est un remède efficace à la présence, et que salutaire vous serait d'ici venir, traînant à la ficelle, jouant le dangereusement emmanché, pour votre bien réciproque et parallèle. Rien ne vous cet air pur et le beau temps qu'il fera garanti pour décongestionner ou congestionner, des deux côtés il y a profit, ces passions qui bouleversent vos vies, les emplissent, accaparent, gonflent, font éclater, brisent, écrasent, étonnent, sens premier, massacrent, déchirent, débordent, exaltent en folie, rongent, usent, liment, grattent, percent, désaxent, malmènent, tirent, poussent, rendent aux centuples, catastrophient, décombrifient, incompréhensiblifient, peuple d'illusions néfastes et vengeresses, mollifient, mangent, avalent, mâchent, brûlent, font cuire, bouillir, retirent, balayent, enchaînent, pour tout dire. Et tout cela est doux, ne s'appliquant qu'au présent, mais que dire des tourments futurs. À cette seule évocation, l'acier de ma plume se retrousse, grince, crache, crie, s'arrête d'épouvante et refuse de former autre chose qu'une épouvantable cicatrice dont on peut voir au moins liseur de présage qu'elle est présageusement noire ou blue-black, là il fait un parbeau. C'est comme qui dirait des éclairs d'obscurité impénétrable. Et ça continue ici, jusqu'à la fin de cette lettre que j'ai transcrite. Réfléchissez-y et surtout décidez de venir. Nous vous attendons, bière en tête. Sur ce, je vous quitte avant qu'une indigestion biéreuse maltraite ce papier éloquent. Vous salue et à temps nouvelle, vous remercie de souhaits qui me feront en ce moment grand besoin, aussi de livres pour lesquels je vous enverrai sous peu chèque pour que vous m'avanciez le coup. Priez pour mon âme, un peu à l'écart depuis quelques jours et comme qui dirait, mal coincée par Belzébuth. Voilà. Le rabaissement corporel est un sujet de prédilection de Garneau qui revient dans toute sa correspondance. Les amis éditeurs n'ont pas tout censuré en 1967, mais ils ont fait leur possible pour éliminer les lettres les plus vulgaires, comme celle-ci, ou d'autres, pire encore, plus obscènes, plus délirantes, comme cette lettre où Garneau se moque de son destinataire et lui annonce toutes sortes de châtiments corporels parce qu'il a refusé de suivre le groupe qui fait une retraite à la Traboka. Et c'est cette lettre-ci. Il s'agit d'un récit hallucinant de 15 feuillets, donc je vous donne juste quelques extraits. Qui commence ainsi. « Monsieur, puisque vous n'avez pas voulu vous rendre à l'invitation qui vous était faite au moyen de voix si hautement autorisées, lesquelles vous exhortaient de par leur expérience, à laquelle expérience ces voix avaient été induites par vos exhortations du temps de votre zèle, de sorte qu'ainsi vous refusez de conformer votre vie à vos paroles et enseignements, puisque vous n'avez pas eu le courage de vous plonger hardiment dans ce lieu de recueillement et de méditation qui nous a accueillis, en ce jour, nous ne pouvons vous adresser que regard lointain, réprobateur, et prier pour que l'abondance des tentations qui vous assailliront de toutes parts vous incite à amender ou plutôt votre vie dans le sens du détachement, tâchez de comprendre. C'est à l'occasion de faits que cette lettre par douceur et charité ne mentionne pas nommément, qui en sont à leur troisième série répétitive, que nous vous adressons cette réprobation sévère mais méritée. Puissiez-vous donc, dans une solitude occasionnée par le départ d'amis que vous avez refusé de suivre, dans la voie du recueillement, puissiez-vous être en but ou pires ennuis de l'inquiète solitude, puissiez-vous, durant de longs séjours et de plus longues soirées, et qui sait, durant d'interminables nuits sans sommeil, auxquelles l'aube n'apporte que surcroît de mauvaise conscience et d'épuisement, puissiez-vous interminablement parcourir votre chambre. Et puis là, le récit devient vraiment scatologique. Les murs de la chambre se referment sur Claude Urtubise qui tente de fuir. La maison est sans dessus-dessous. Il se retrouve bientôt sur le point de desséquer entre les barreaux d'escalier. Il se retient, mais aussitôt l'envie d'uriner le prend sous les yeux de la bonne. Et on peut plus loin. Mais voici que cet ordre admirable et ce lieu de toute complaisance est bouleversé sous vos yeux et s'en mêle dans votre esprit. Arrêtez, vous alliez chier du haut de l'escalier entre l'ouverture des barreaux. Et qui sait si cette matière affectant dans sa chute une forme familière comme il arrive aux nuages? Vous n'allez pas tantôt la voyant noir et sous forme de lapin symbolique en vouloir faire vos délices de Pâques? Et qu'arrivera-t-il au moment où, et là je continue à lire, sentant une naturelle envie de pisser par une étrange association d'idées, où le diable aura peut-être de sa part, mais pas aussi considérable qu'il ne voudrait, vous lèverez la jupe et le jupon de votre bonne, étonnant chastement un regard indifférent, fixé sur la jointure linéaire que forme la rencontre du mur avec le plafond, ferez consciencieusement votre pipi dans vos pantalons, ce regard expectant et bientôt déçu de la dite bonne qui, quittant votre visage paisible, tombera avec une surprise bientôt hilare sur la mare grandissante, sur le linoleum de la pantrie. Voilà. Et la lettre est signée « Les anachorètes distinguées ». Elle fait partie de ces quelques lettres que Garneau écrit comme si la scène épistolaire était un espace social, exposé au regard de toute sa confrérie, un exutoire où il pouvait à la fois être pleinement lui-même et se prendre pour un autre, jouer la comédie comme il l'a fait plusieurs étés à Sainte-Catherine. La scène épistolaire, je l'ai dit, est le lieu où Garneau dépasse les bornes, exhibant toutes les facettes de son jeu et parfois celles de ses correspondants. Ce Garneau littéralement obscène, impertinent, clownesque, certains diraient insignifiant, superficiel. J'ose à peine imaginer la colère d'un Jean Lemoyne s'il apprenait que je m'apprête à le rendre public. Mais c'est le même Jean Lemoyne qui se plaignait dans ses essais que la littérature canadienne-française était désincarnée. Et que nos romanciers avaient été incapables de créer de vrais personnages amoureux, que les héros de ces faux romans d'amour sont restés des fantômes, pas la moindre présence physique, disait-il, dans Convergence. Or, cette présence physique, elle est centrale dans les lettres de Garneau. Elle s'exprime de toutes sortes de manières, parfois sérieuses, parfois de façon fantaisiste, comme dans une autre lettre inédite à Claude Urtubise, où Garneau expose son projet d'écrire un traité des odeurs individuelles. Il y aurait un traité fort intéressant à écrire des odeurs individuelles. Je comprends les chiens qui peuvent suivre leur maître à la trace. Chaque personne est si particulière dans chacune de ses manifestations odorifiques qu'il ne m'étonnerait guère qu'à force de science et d'observation, on finisse par pouvoir dire le caractère des gens d'après l'odeur particulière de leurs pieds. S'il est vrai que ceci est tout physique, il n'est pas moins vrai que le physique et le moral ont d'intimes rapports qui nous permettent d'induire de l'un à l'autre. Et cette étude est des plus captivantes, c'est tout l'art de l'observation. Ces profondes réflexions me viennent au sujet d'odeurs de cabinet d'aisance. Un oncle et une tante à moi sont ici. Je reconnais leur parfum spécial respiré jadis chez eux au même lieu. Cela me rappelle que mon père ne chie pas de la même qualité odorifique que ma mère. Et je remarque que toute personne demeure en dedans d'une certaine gamme de variations relatives à la nourriture actuelle qu'ils consomment et que leurs excréments gardent toujours un certain aspect général de l'odeur, si l'on peut dire, qui leur est propre, qui relève de la constitution de leur provenance, qui est leur personnalité, ce je ne sais quoi qui est la touche d'un être distinct et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il est aussi à remarquer que ce caractère particulier de l'odeur est beaucoup moins accentué et subit beaucoup plus de variations chez les êtres jeunes. Voilà. Alors. Voilà. Cette science des odeurs de Garneau semble farfelue peut-être, mais elle trouve des lettres de noblesse depuis au moins Rabelais, que Garneau cite à tour de bras dans toutes ses lettres. Il a été question de l'abbaye de Thélème un peu plus tôt. Il semble aller de soi que les amis de Garneau, tout en voulant rendre justice à l'œuvre de ce dernier, l'ont dérablinisé et en partie dévitalisé, contribuant ainsi à créer et à propager une image austère, trop sérieuse du poète. Leur censure amicale fait presque sourire aujourd'hui, et le côté scandaleux des lettres qui ont été censurées s'est évaporé. Nous nous scandalisons plutôt de la censure elle-même, si amicale soit-elle, et celle-ci ne fait que mieux faire ressortir la liberté de la prose épistolaire de Garneau. Voilà. Je m'arrête ici.